Non, maintenant, il faut aussi vous inquiéter du sort de vos invités. Ils doivent vous attendre,
s'impatienter. Je vais les rejoindre, les aider à transporter leur drôle d'instrument de musique.
Et on est parti pour de jolies bizarreries musicales. À tout de suite.
À tout de suite.
Vous avez entendu Grace Jones, Love You to Life. Alors, on va aimer certainement cette rencontre que vous nous proposez. Là, vous êtes arrivé sur le canapé. Pour cause, c'est en face du studio. Daniel Fieri, vous n'êtes pas perdu ?
Non, je ne suis pas perdu. Je suis toujours là. Aurélie Svez a croisé la route de Bill Holden. Alors, évidemment, ils sont en grande discussion parce qu'il faut dire qu'il ne passe pas inaperçu, Bill Holden, avec l'instrument qu'il a amené. Alors, en plus, il l'a apporté de loin puisqu'il vient de Suisse où il habite, de la Chaux-de-Fonds.
Ah oui.
Il l'a transporté. Il vient exprès pour nous. D'ailleurs, il est déjà un peu en train de souffler dedans, donc ça fait un peu de bruit. Je ne sais pas si vous entendez.
J'entends vaguement quelque chose, effectivement.
Alors, Bill, faites-le sonner un petit peu, là, tout de suite, alors.
J'entends aussi le rire d'Aurélie Svez.
Ouais. Alors, c'est assez particulier. Je ne pense pas que vous puissiez imaginer à quoi ressemble l'instrument avant de l'avoir vu.
2,20 m, c'est ça ?
Alors, il fait 2,20 m, mais il n'a pas que ça comme caractéristique. Mm-hmm. Bill Holden, où allez-vous chercher tout ça ?
Sur les trottoirs, dans les décharges.
Ça se voit un peu, sans vouloir être vexant.
Ils déménagent, ils ont un lit à donner. Quand ils bistrot, ils nettoient le fond de leur casserole. Voilà.
Alors vous allez voir, il y a quand même une bonne dose de créativité, de bricolage et d'inventivité pour donner corps et forme à tout ça. Et puis avec Bill Holden, je suis aussi avec Matteo Merzagora,
oui,
qui a choisi d'abriter les œuvres de Bill Holden pour 3 mois à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, à l'ESPCI Paris Tech.
Donc là, ça devient sérieux, toute cette affaire.
Il y a ça que vous ne pouvez pas voir à la radio, malheureusement, mais il y a beaucoup d'instruments faits avec les matériels de récup les plus bizarres, entre casseroles, ski. Il y a une sorte de skitar, un ski qu'on peut tordre pour faire, pour produire des sons que vous allez entendre bientôt encore.
Un skitphone, voilà, le skitphone se devient skitphone avec notre invité Bill Holden. Voilà, on va voir un peu quelle correspondance il y a avec cette démarche artistique, création musicale, et puis la démarche plus de vulgarisation scientifique de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. On vous explique tout, on arrive avec notre instrument gigantesque, Alexandre.
J'ouvre les yeux et grand les oreilles aussi.
Allez, on arrive sur quelques notes jouées par Bill Holden.
Ça y est, vous êtes là, Bill Holden est en train... Et oui, effectivement, vous êtes en train de vérifier, Bill Holden, que le studio n'a que 2,20 m de hauteur, puisque votre instrument touche le plafond. C'est un peu difficile, vous allez m'aider, Daniel Févé, pour le décrire, cet étrange mât.
Alors,
je dis un mât, mais c'est un peu ça.
Oui, c'est un petit peu un mât. Alors, je pense qu'on le décrire. On va laisser un peu de suspense autour de cet instrument, si vous le voulez bien. On va le décrire un peu plus tard. Bill, est-ce que vous pouvez... Alors, je ne sais pas s'il tient debout tout seul. Est-ce que vous pouvez rejoindre le micro? On va discuter un petit peu, et puis ensuite, vous viendrez nous faire une démonstration, le faire sonner, parce que il a évidemment beaucoup de possibilités. On peut souffler, taper. Enfin, ça mérite une petite démonstration à part entière. Mais on va commencer déjà par essayer d'apprendre à vous connaître un petit peu.
Et ils vous ont laissé passer les frontières, enfin vous me direz, c'est la Suisse, avec cet instrument, Bill Holden.
On m'a dit, il suffit d'utiliser le mot pédagogie. Ça passe.
Ah, voilà,
c'est du matériel pédagogique.
Il faut dire, pour être tout à fait complet, qu'il n'est pas arrivé avec son instrument entièrement construit. C'est-à-dire que là, depuis une demi-heure, il est arrivé avec ses clés à molette, il avait tout un tas de petits outils de bricolage, et il l'a monté sous nos yeux à Matteo Merzagora et moi, dans le bureau. On a vu s'ériger ce drôle d'engin petit à petit, vis après vis. On était un peu surpris du résultat. Mais force est de constater que ça sonne. Et alors, en parlant de sonner, Bill Holden, à la Chaux-de-Fonds en Suisse, vous avez créé la Sonorie, un lieu, un atelier du son. Qu'est-ce qui s'y passe dans cette Sonorie que vous avez créée?
Alors déjà, le lieu est rempli de fond en comble avec des objets sonores que j'ai réalisés à partir des matières récupérées. Chaque objet fait un son qui soit spécifique à lui. Il y a certains objets qui font plusieurs sons selon la manière qu'on manipule l'instrument. Le 99% de ces objets n'oblige pas un apprentissage de langue à l'aine pour pouvoir jouer.
Oui.
On pourrait faire sonner tout de suite.
C'est important que le son soit beau ou bon.
Comme j'ai dit à Daniel une fois, il y a un enfant qui était en train de jouer un de mes instruments. Et puis, il m'a demandé, est-ce que c'est juste ce que j'ai fait? Je lui ai répondu, est-ce que ça te plaît ce que tu entends? Si le son te plaît, c'est bon. Si le son ne te plaît pas, ou bien tu changes ta manière de jouer, il y a plusieurs manières de manipuler celui-là, il faut essayer encore. Ou bien simplement tu peux le poser puis choisir un autre instrument, parce que j'en ai 10 centaines. Donc il n'y a pas d'obligation de faire sonner juste, il faut que le son lui plaît.
Alors on va voir si le son de votre drôle d'instrument, est-ce qu'il a un nom, l'instrument que vous avez construit pour nous? Il n'a pas encore de nom?
Pas celui-là, il vient d'être inventé. Donc il...
Vous pouvez l'appeler Studio 61.
Voilà.
Ah oui, ok, d'accord.
Il l'a vraiment créé quand je l'ai eu au téléphone il y a quelques jours, Bill Holden. Je lui ai dit, alors ce serait bien que vous veniez avec un instrument pour faire la démonstration. Il m'a dit, écoutez ça, je prends ça comme un défi personnel. Je vais créer un instrument exprès pour votre émission. Donc c'était la première fois évidemment qu'il va se produire avec. Matteo Merzagora, en parlant du nom de l'instrument, instruments. Dans l'exposition qui est présentée actuellement à l'espace Pierre-Gilles de Gênes, justement, vous proposez aux visiteurs de donner des noms aux instruments.
Oui, dans toutes les expositions qu'on fait, on a une démarche qui veut être toujours participative. On veut que les visiteurs soient là pour faire quelque chose. Et donc, dans ces cas-là, à part le fait qu'il est là pour jouer, parce que les instruments de Bill sont des instruments qui doivent être joués par les visiteurs.
Ah oui, ils sont complètement en accès libre, ces instruments. On peut, d'ailleurs, à l'accueil, ils doivent se tenir un peu la tête dans les oreilles.
J'en profite pour donner toutes mes excuses live sur la France entière à l'accueil de l'SPCI Paris Tech qui souffre depuis un mois.
Et à France Inter, ils ont été peu regardants. Hein. Là, on peut venir avec n'importe quoi. Non, il ne faudrait pas le dire à l'antenne.
Non, ne dites pas ça à l'antenne. Cela dit, c'est vrai que dans les couloirs, Bill faisait déjà un peu l'animation. Plusieurs personnes sont venues le voir.
Mais on disait participatif parce que les visiteurs, autres que jouer les instruments, doivent lui donner un nom. Donc si celui-là, bon, il l'a déjà. Mais les autres, il y en a encore qui attend un visiteur qui arrive. Et en donnant un nom, on donne aussi une description, on les raconte.
Alors Bill, on écoute l'instrument que vous avez construit exprès pour Ouvert la nuit. Alors, pour le décrire, un gros bidon de café en bas auquel vous avez accroché quelques casseroles, hein, c'est ça. On va vous tendre un micro peut-être pour que vous m'aidiez à le décrire déjà, l'instrument. Et puis, vous avez fait une structure en bois à base de lattes de lit, c'est ça?
Voilà, deux paires de lattes de lit qui sont surimposées, vissées ensemble, puis entre les lattes de lit, de tout en haut jusqu'en bas de cette boîte de canettes pour le café, est tendu un fil en acier. Donc, là, je suis en train de frotter avec les doigts. Et quand je presse les lattes ensemble, ça détend la corde.
Holden, le premier effet, vous avez remarqué, c'est de faire revenir Aurélie Sfez, qui n'avait jamais vu ça de sa vie. Elle en a vu pourtant. Aurélie, un mot sur ce que vous venez de voir.
Aurélie, approchez-vous du micro.
Non, mais c'est entre, je disais donc, entre le gaffophone, le saxophone, la sitar, la harpe, et ça sonne. Ça sonne cajun.
Et on aurait même pu faire sonner. Il y a un autre tuyau qu'on n'a pas essayé. Parce que ce qu'on n'avait pas dit, c'est que de part et d'autre du bidon central, vous faites partir deux tuyaux d'arrosage ou je ne sais quoi. Et quand on a entendu un peu ce bruit de casou, c'était le premier tuyau. Deuxième tuyau, quel bruit ça fait? On va entendre ça.
C'est magnifique les images qu'on a à la radio.
Oui, bravo Bill Holden. Venez vous rasseoir, hein, qu'on essaye de comprendre comment vous en êtes arrivé à construire ce genre d'instrument. Faudra quand même qu'on
Magique.
Le prenne en photo et qu'on le mette sur le site internet de l'émission pour avoir une image, une vision d'ensemble de ce que peut être cet instrument.
On le mettra sur la page de Facebook de l'émission. Hein.
Je précise, Bill, que vous avez une formation au départ musicale, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Vous avez suivi des études universitaires en musique, vous avez appris à jouer de la trompette, vous en jouez d'ailleurs toujours dans un groupe de musique, Fanfare du Loup Orchestra, ça c'est votre groupe de musique. musique.
Oui, c'est ça.
Vous m'avez dit, je dois rentrer vite demain parce que j'ai une répétition de trompette. Donc, vous êtes un trompettiste. Vous êtes habitué à jouer sur des instruments classiques. Alors, comment tout ça a commencé? Au tout début, vous avez beaucoup voyagé. Hein. Vous avez été 3 ans au Maroc, puis vous avez vagabondé à travers l'Afrique du Nord, l'Europe. Vous êtes arrivé en Suisse. Ça s'entend parce que derrière votre accent américain, il y a aussi ce petit accent suisse parce que vous avez appris à parler le français en Suisse. Et donc, lorsque vous étiez en Suisse, vous rencontrez quelqu'un alors que vous êtes en train de faire du stop, un automobiliste. Et là, ça va être le déclic. Qu'y avait-il dans cette voiture?
Dans son break, c'était rempli d'instruments de musique, toutes sortes de xylophones, des flûtes à bec, etc. Et j'étais curieux ce qu'il faisait avec ça. Alors, mes connaissances de français à cette époque étaient très primaires. Et puis, il a dit, j'ai fait l'animation musicale. Alors, ce mot en français, animation, c'est fascinant parce qu'il a une polyvalence qu'on n'existe pas en anglais.
C'est vrai.
Animer, animation, faire vivre quelque chose. Et j'ai pu, avec des années, à vraiment apprécier ce mot. Je trouve que c'est très important. Dans l'animation, on parle des centres d'animation socio-culturelle, mais le mot même de faire vivre quelque chose. Et en l'occurrence, ce bonhomme, il faisait de l'animation musicale avec les enfants. Et il m'a invité chez lui. J'ai pu observer comment il travaille avec les enfants du village dans son salon et j'étais bouche bée. C'était pas un grand technicien, mais c'était un humaniste. Il avait un sens de contact avec les enfants qui je me suis dit, c'était pas une pédagogie didactique. Vous faites comme moi, voilà.
Non, il est dans la transmission, mais au point que votre vie bascule et vous dites, je vais faire ça.
Oui, je ne me suis pas rendu compte dans quelle mesure j'ai pris le virage, comme dans une histoire de Paul Auster, j'ai choisi cette route-là au lieu de celui-là. Oui, tout a changé depuis.
Et puis alors, une fois que vous avez choisi cette route-là, vous faites une autre rencontre. Alors c'est plus tard, hein. Là on est au début des années 80. Là encore une rencontre qui vous marque, les frères Bachet. Qui sont-ils ces frères Bachet qu'on ne connaît peut-être plus très bien aujourd'hui?
C'était des inventeurs de ce qu'on appelait des sculptures sonores à l'époque, dans les années 60 et 70. Ils avaient fait le tour des plus grands musées d'art moderne du monde entier. Et j'ai rencontré par hasard, lors d'un festival de musique improvisée à Sens, France, les deux là, avec leurs objets. Très sympa.
Donc, ils pliaient le métal pour en faire des grandes sculptures sonores. Et puis, ils ont aussi inventé un instrument qui porte leur nom aujourd'hui, le cristal Bachet. Alors, je vous propose d'écouter, c'est une interview qui date de 2010 par Antoine Marié pour Télérama.fr. Antoine Méret. Il interviewait donc Bernard Bachet, qui est toujours en vie. Et il répondait, Bernard Bachet, à la question suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer de nouveaux sons?
C'est une névrose. Mais enfin, si vous voulez, c'est la réponse que je donne parce que j'en sais absolument rien. J'ai écouté beaucoup de musique quand j'étais jeune, quand j'étais à Centrale. On s'est réfugié dans la musique et je suis très sensible à l'écoute du son. Le son en soi. C'est même pas un plaisir, c'est une nécessité. C'est une nécessité, ce sont des images qui nous habitent et il faut qu'on le fasse, autrement on devient dingue. C'est une psychothérapie même.
Et donc là, on entend le son de cet instrument, le cristal Bachet, joué par Michel Deneuve. C'est un instrument assez étonnant où on doit glisser ses doigts sur des sortes de baguettes un peu cristallines. Et puis le son se transmet à des tubes métalliques. On entendait Bernard Bachet qui disait « c'est une nécessité, c'est une névrose, presque un besoin physique de créer ces sons ». Vous le vivez de la même manière, vous, Bill Holden ?
Non, le son, c'est une source de plaisir, mais aussi... Une des idées de l'animation musicale, mon approche, c'était un peu de démystifier l'idée de faire la musique. Il y en a beaucoup de gens qui disent « Ah, je n'arrive pas à faire la musique ». C'est sous-entendre la musique, donc la gamme diatonique avec toutes les années qu'il faut pour apprendre une technique instrumentale très précise avant de sortir un son qui soit convenable. Je ne suis pas contre cet apprentissage. Comme tu as dit avant, j'exerce toujours la trompette, j'adore jouer, je fais du jazz, du salsa, du funk. Mais dans l'apprentissage des sons au tout début, ou même pour un adulte, on peut faire, comme John Blacking, l'ethnomusicologue a marqué, on peut faire une sorte de musique en organisant les sons entre nous. Ça devient une sorte de jeu. Jeu dans le sens ludique du terme. Je montre les gamins comment a game, a musical game, voilà.
Et ils ne vous disent pas que vous êtes fous, les gamins?
Non, enfin, il rigole. C'est plutôt des parents qui me disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? Il vient à la maison, il tape sur tous.
» Juste, je précise sur le Crystal Bachet qu'on entendait que dans Ouvert la nuit, on réentendra très prochainement du Crystal Bachet, puisque le 24 février prochain, Alexandre, vous recevrez avec Aurélie Sfez, ensemble Hope, qui joue du Crystal Bachet. Donc incroyable. Vous aurez l'occasion d'en réentendre dans cette émission. Mais ils ne sont pas isolés, ensemble Hope, hein, puisque Gorillaz, Émilie Simon ou encore Tom Waits,
eh oui, Tom Waits oui.
ont utilisé cet instrument de musique. Vous auriez aimé, vous, qu'un instrument de musique porte votre nom, Bill Holden ?
Non.
Non, vous n'avez pas cette prétention. Par contre, Tom Waits, vous aimez et vous trouvez un certain lien entre sa musique et ce que vous faites.
Tom Waits, il a à la fois la tendresse et puis la rage dans ses musiques, dans la parole et puis dans le style. Il y a des fois certains morceaux où un fond sonore qui est très brut. Peoria Jazz, Joe Dudlow Joe. I can break out of any old jail, you know. The bars are iron, the walls are stone. All I need, man, is a whole fishbone. Some fish in the jailhouse tonight. Some fish in the jailhouse tonight. Some fish in the jailhouse tonight. All right. Oh yeah. There's some fish in the jailhouse tonight. Oh boy. There's some fish in the jailhouse. Fish in the jailhouse tonight. Gonna be an open line. Hammerhead shark, steelhead salmon, or a mudbank carp. I send one side dull, I'll do the other side sharp. Saturday night, I'll be in Central Park. In the jailhouse tonight. All right. Look here, that's some fish in the jailhouse tonight. All right. There's some fish in the jailhouse tonight. Oh boy. There's some fish in the jailhouse. Fish in the jailhouse tonight. Ask little son Jackson or the 44 kid. Down to Rolling Fork, Natchez to Kenosha, Newtown to New York. Some fish in a jailhouse tonight. All right. Look at here, fish in the jailhouse tonight.
Fish in the Jailhouse. Tom Waits pour accompagner dans Ouvert la nuit les extraordinaires aventures et facéties musicales proposées par Daniel Fievé. Fievé et ses invités.
Et oui, les invités, donc Bill Holden, ce musicien un petit peu fantasque qui nous a rejoint, qui vient de Suisse, et puis qui expose actuellement donc à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Cet espace d'ailleurs, Matteo Merzagora, dont vous êtes le directeur artistique, au départ c'est donc une école, hein, une école où il y a des chercheurs...
C'est l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, là où Pierre Curie, Marie Curie, Paris ont travaillé, et plus récemment Pierre-Gilles Desgènes. Donc c'est, oui, c'est une école d'ingénieurs.
Voilà, alors comment se fait-il que dans cette école hautement sérieuse se retrouve cet espace culturel très libre, hein? Moi j'aime beaucoup y aller, alors c'est petit, hein? C'est un petit espace d'exposition, c'est entièrement gratuit, on peut y aller, vous pouvez aller voir sur internet pour les horaires d'ouverture, et bon, régulièrement c'est des surprises où vous n'hésitez pas à mélanger science, culture, récemment il y avait une exposition sur l'humour, enfin vous allez comme ça un peu sur des terrains un petit peu inexplorés.
Oui, exactement. C'est la science en culture. On pense à un espace public des sciences lié à une école où on fait la recherche, la vraie, celle dure, fatigante, derrière le labo. Mais on la pense comme quelque chose qui doit rentrer dans la culture en général. Et donc, c'est notre devoir de la croiser avec d'autres formes d'expression, comme l'art, comme l'humour ou comme la musique, en ces cas-là. Et donc, l'œuvre de Bill nous a beaucoup fascinés parce que dans notre approche, on a quelque chose autour de la créativité technique. Une école d'ingénieurs des recherches, c'est aussi un lieu de créativité qui s'applique à la technique. Donc dans nos animations, on développe beaucoup ce concept de faire faire des choses, de croiser art, science et bricolage. Donc on fait faire, en faisant, on construit des objets qui ont un sens personnel, personally meaningful, dirait Bill Holden, et à travers l'exploration desquels on peut commencer à questionner, à s'interroger, on peut développer notre curiosité scientifique. Donc de la créativité technique à la curiosité scientifique, et c'est là qu'on commence à éprouver ses goûts pour la découverte, pour la compréhension des phénomènes. Et quand on a vu le travail de Bill, qui est encore avant de parler des musiques, c'est vraiment un travail de découverte du son. C'est-à-dire, on prend des objets et on commence à les interroger.
On va à l'origine du mystère, presque, du son.
Mais oui, oui, c'est exactement ça. On a reconnu une démarche qui est très celle du scientifique, la plus belle, la partie, après, il faut faire les calculs. Hein. Mais au début, il faut juste regarder les choses et commencer à se poser des questions.
Alors, je vous propose justement de vous étonner encore de quelques sons produits par les étonnants bricolages de Bill Holden. On en parlait tout à l'heure, le ski de fond qui est devenu ski de phone. Donc, c'est un ski avec des cordes tendues posées sur deux perches. Au centre, une petite chaînette qui mène à une pédale qui joue un peu le rôle de pédale wah-wah. Et puis à chaque extrémité, on a deux grosses caisses en polystyrène qui servent de caisses de résonance. Et donc très très étonnant ce skitphone, et ça fait ce son-là. Voilà, assez étonnant hein, ce son. Vous vous inspirez d'instruments déjà existants, Bill Holden, ou d'où vous vient c'est vrai que ça ressemble à rien, en tout cas.
Ça, pour c'était après un trek en Himalaya, peut-être.
Oui, il y a un petit peu de ça au niveau du son. Bill Holden, donnez-nous vos secrets de fabrication.
Non, mais c'était vraiment un jeu. Une fois que je commence à tendre les cordes, de tout premier instrument que j'ai fait avec une corde tendue, c'était un pelle à neige.
Ah oui?
Oui, ça, il est toujours, il sent super. Et puis après, je me suis dit, si j'ai tendre une file de fer entre les deux points d'un vieux ski, qu'est-ce que ça va donner? Puis après, j'ai ajouté des polystyrènes. Faut savoir que ça fait pas mal des années que je fais ça, donc je sais que certaines matières marchent et comment ils fonctionnent.
Alors, un deuxième pour la route, qui est plus... Alors, ça s'apparente plus à un carillon. À chaque fois que j'ai fait écouter ce son, on m'a parlé de campagne avec des vaches et des cloches qui tintinabulent. On va écouter ce drôle de carillon. Ah, non, ça, c'est pas le carillon. Voilà le carillon. Alors ça, c'est produit par des sortes de petites tasses en métal. Il y a des couverts aussi qui sont suspendus. Il m'a semblé voir parmi ces couverts des pièces d'argenterie. Je me suis dit vraiment, dans les décharges en Suisse, on trouve des trucs quand même assez coûteux. En plus, vous les disposez comme ça, accrochés. On peut vraiment se servir. À la limite, on peut repartir avec la fourchette en argenterie. Il y a vraiment de l'argenterie qui pend à ce mobile, non?
Oui, c'est le terme qu'on utilise. Mais est-ce que tu as remarqué ce qu'il y a au bout de roue aussi, tout autour?
Non, dites-moi.
Il y a plein de boîtes de...
Des boîtes d'œufs?
Non, des boîtes de thon.
Ah oui, ce que j'ai appelé des timbales, ce sont des boîtes, mais comme elles sont très très propres et nettoyées, au premier abord, c'est en inox, c'est plus joli qu'une boîte ton classe
de tout. Et cet ensemble donne quelque chose de plus étonnant que la pendule astronomique de la vieille place de Prague. Je vous félicite.
Alors, les ateliers de création, on en a un petit peu parlé avec vous, Matteo Merzagora. Mais qu'est-ce que vous faites faire aux enfants qui viennent vous voir et qu'est-ce que vous leur ferez faire? Alors, on en parlera dans un deuxième temps, mais déjà aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites faire aux enfants qui viennent? Ce sont des enfants des écoles. Oui, et puis, vous leur proposez donc de jouer à faire des instruments de musique, à découvrir le son?
Oui, exactement. On part des objets débiles. Ils commencent cette exploration sonore en touchant les instruments, les caressant, les frottant, les percutant. Et après, ils font des jeux pour voir comment, à partir de ces gestes simples, après, on commence à faire des choses plus compliquées. Ensuite, ils construisent leur propre instrument, quelque chose de proche de ce que vous venez d'entendre, par exemple un paille à sax, avec une paille de tuyau, on fait des saxophones. Bon, après, le résultat, ça plaît aux enfants, c'est ça qui compte. Alors, et en faisant ça, évidemment, après, on commence à parler pourquoi ça fait du son, comment on pourrait l'améliorer, comment on peut changer ces sons et pourquoi un saxophone, ça joue quand même un peu mieux.
Alors, oui. Et il va y avoir, là vous dites, ça plaît aux enfants, quelque chose qui pourrait plaire aux plus grands, même si c'est à destination des enfants. Fin février, s'invite, on pourrait dire, à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, Björk, carrément. En tout cas, ces musiciens, racontez-nous cette drôle d'histoire.
C'est grâce à une rencontre avec Deuxième Labo, c'est une autre association qui s'occupe de communication des sciences. Et Björk a associé à son concept album Biophilia, toute une série de choses, parmi lesquelles la construction d'instruments, une application iPhone et des ateliers pédagogiques. Le projet, ça s'appelle Biophilia Education. Et l'idée, c'est de croiser l'exploration scientifique. L'album de Björk est très axé sur l'exploration de la science entre vie et vivant et pas vivant. Et donc, autour de ces concepts, il y a des expériences scientifiques et des ateliers musicaux faits avec les musiciens de Björk, peut-être même Björk même.
Peut-être qu'elle passera, c'est pas sûr.
Ne le dites pas, ça va être l'émeute.
Comment on fait pour s'inscrire? Parce qu'il y a quoi? Il va y avoir 15, 40 places? Ça s'étale sur toute une semaine?
Disons que c'est pas encore complètement défini. Les inscriptions ne sont pas encore ouvertes, mais si vous allez sur le site qui est www.espgg.org.
On va le relayer sur le site de France Inter. Bah,
c'est super.
Vous allez voir.
C'est super. Et là, vous pouvez déjà vous préinscrire. C'est pour les jeunes d'entre 8 et 15 ans. Et on va définir d'ici peu combien de gens on pourra accueillir selon les exigences des musiciens. Et tout joue autour de l'utilisation de l'iPad à travers l'application de Björk pour reprendre en main les sons du disque, de l'album, et en refaire de la musique, rejoignant beaucoup ce que disait Bill Holden. Avant tout, il y a les sons, sa manipulation et le plaisir qu'on y trouve à les manipuler. Björk a repris ces concepts. On n'est pas dans les matériaux de récup, on est dans la high-tech la plus poussée.
Oui, voilà. C'est un peu le grand écart, mais on arrive un peu sur le même principe. Alors, tout ça est à découvrir dans l'exposition Bricolacido, à découvrir donc à l'espace Pierre-Gilles de Gênes
jusqu'au
11 mars prochain, avec en février donc ces ateliers pour les enfants conçu par Björk et en présence des musiciens de Björk. Et puis, bien sûr, la sonnerie à la Chaux-de-Fonds en Suisse. Puis, je rappelle également vos nombreux CD, Bill Holden, en tant que musicien plus classique, trompettiste, fanfare du Loup Orchestra. Tout ça est à découvrir. Merci à vous deux d'être venus nous voir dans Ouvert la Nuit.
Merci à vous trois. Merci, Bill Holden. Vous êtes un magicien. Vous aussi, Daniel Fievé. On se revoit dans 15 jours.
Apesar desse sol cascal, desse vento constante, desse chão magoal, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dando um leite que é tão doce e morninho, nota senti boa ternura na nos pele morena, nota senti boa ternura na nos pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, mãe mãe carinhosa, mãe carinhosa, mãe mãe carinhosa, mãe, carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já voltou cheio da ansiedade para Bortalém. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já voltou cheio da ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Apesar de sol cascaldes, vem constante este magoalto. Boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho. Nota senti boa ternura na nos pele morena. Nota senti boa ternura na nos pele morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca te esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo que já volta cheio da ansiedade para boa calente. Ó terra mãe, a emoção é de filho pródigo que já volta cheio da ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, 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 mãe carinhosa, boi mãe carinhosa.
Ouvert.
Ouvert la nuit.
La nuit. La nuit.
Alexandre Hérault.
La nuit s'ouvre.
Sur France Inter.
Hier, à cette même heure, on a longuement évoqué le 75e anniversaire de Spirou et le fait qu'allait être projeté vendredi un documentaire de Pascal Forneri qui lui était consacré et que cette projection, en avant-première, se faisait à Angoulême à l'occasion de la 40e édition du Festival international de la bande dessinée qui commence pas plus tard que demain et se prolonge pendant 4 jours jusqu'au dimanche 3 février. Rarement une ville est autant identifiée à son festival qu'Angoulême, devenu, on le sait, la Mecque de la bande dessinée. Le vaisseau amiral du festival, portant le nom de Mobius, alias Jean Giraud, est un bijou architectural dont les angoumoisins sont fiers. Les organisateurs fêtent leurs 40 bougies avec une belle affiche, à commencer par le président du festival, qui est cette année Jean-Claude Denis, un auteur précurseur du genre autobiographique en BD, que nous avions reçu sur ce canapé en octobre dernier. Les œuvres dessinées qu'il met en scène sont fabuleuses. Et cette programmation prestigieuse, il m'est impossible de la résumer là, en quelques phrases, puisque ce bloc-notes en ouverture d'agenda me sert principalement qu'à vous rappeler de ne pas oublier de vous y rendre. Alors n'hésitez pas à consulter le dossier complet que la rédaction du multimédia a réalisé sur le site franceinter.fr sur cette 40e édition du Festival d'Angoulême. Et permettez-moi maintenant de nous tourner vers un autre festival qui marque de son empreinte depuis pas moins de 35 ans la ville de Clermont-Ferrand, celui du court-métrage. Et je reçois sur ce canapé, il vient d'arriver, Éric Vaugic, son délégué général. Bienvenue mon général.
Bonsoir Alexandre.
Allez, on part tout de suite avec vous à Clermont-Ferrand. Alors Éric Vaugic, ce son est tiré de la BO de Coup de foudre à Bollywood. Et ça nous permet tout de suite d'évoquer avec vous ce focus que vous avez programmé sur le cinéma indien et sa nouvelle génération de cinéastes qui, qu'on se le dise, ne font pas que du Bollywood. C'est un peu ça.
Ah ben c'est complètement ça. C'est une rétrospective que je n'ai pas préparée puisque c'est un de mes collègues, Jacques Curtil, qui la travaille depuis plusieurs mois, plusieurs années même. C'est un territoire qu'on avait beaucoup de mal à prospecter. Faut d'abord trouver les points d'entrée. Et Jacques est parti en déplacement là-bas. Il a ramené des tonnes et des tonnes de courts-métrages.
Donc vous avez sélectionné 38 films.
Oui.
Qui vont être projetés.
7 programmes.
Et puis vous l'avez baptisé Namasté Hindi. Bon, ça, ce qui veut dire bonjour l'Inde.
Non, la particularité, voilà, c'est qu'effectivement, c'est pas du Bollywood, parce que Bollywood, c'est du long métrage. Et que dans les 1600 films qu'on estime être produits, 1600 courts-métrages qu'on estime être produits en Inde chaque année, il y a effectivement une matière. Donc Jacques a été prospecté des films sur les 10 dernières années dans les 4 grandes écoles de cinéma de l'Inde et nous a concocté 7 programmes.
Bon, alors voilà pour ce focus. On évoquait tout à l'heure Angoulême et son image assimilée à la BD de cette ville, grâce à son festival qui est bien ancré. On peut aussi dire que Clermont-Ferrand est devenu...
on peut totalement le dire.
Au fil de ses 35 ans, la Mecque
de la
capitale mondiale du court-métrage.
C'est la Mecque du court-métrage, absolument. C'est la ville où il faut faire sa cure de court-métrage.
Et puis gagner des prix, si possible.
Évidemment.
Comment l'idée est née rapidement?
L'idée est très simple. Elle est née à la fin des années 70, avec un ciné-club universitaire qui marchait très fort à Clermont-Ferrand. Il y avait plein de chouettes, jolis films très courts, et ils ne passaient pas dans les cinémas. Donc on a cueilli ces perles, et on a façonné petit à petit ce festival, qui est devenu le plus grand consacré au cours.
Assez incontournable. Alors, cette année, on aura forcément envie de découvrir ce que vous nous proposez, à part le focus sur l'Inde. Qu'est-ce que vous nous réservez? Choisissons 2-3 événements qui viennent jalonner ces 10 jours de festival.
L'architecture du festival, c'est 3 compétitions, une nationale, une internationale et une labo, pour ne pas dire expérimentale.
D'accord.
Mais c'est le cinéma hyper contemporain, on va dire. C'est aussi 24 autres programmes liés à l'Afrique, aux enfants, aux scolaires, etc. Des programmes qu'on monte aussi avec des partenaires. Un second focus qu'on appelle particule imaginaire.
C'est un joli nom, ça veut dire que ça nous propose de basculer dans quel univers, ça?
La science.
Ah, voilà.
La science. Le cinéma est né de recherche scientifique, qui continue. Le court-métrage, c'est la recherche et développement du cinéma. On est tout à fait dans les clous.
J'ai bien aussi aimé cette session qui est nommée « Cours de rattrapage ».
Ah oui, alors là, c'est la mémoire. On rattrape des réalisateurs ou des réalisatrices qu'on a programmés et on les fait se confronter en binôme.
D'accord, c'est aussi simple que ça.
Aussi simple.
Et alors les rétrospectives, j'ai cru comprendre qu'elles étaient nombreuses cette année.
Elles sont toujours nombreuses. Là, il y en a 24. En fait, il faut vraiment aller voir le détail sur notre site internet, puisque notre particularité, c'est de tout mettre à jour au fil du temps sur notre site. Et l'avantage que moi j'ai par rapport à vous, c'est que j'ai cueilli hier soir notre catalogue.
Ah, il est là.
Oui,
Faites voir cet objet, mais il est magnifique.
Absolument.
Mais vous auriez pu tout de même
l'envoyer. Mais je vais
vous le laisser. Oh. Alors, isolons quelques pages du catalogue avant de nous quitter. Peut-être un mot sur la façon dont le jury cette année est constitué. Mettez, comme beaucoup, forcément une tête d'affiche?
Alors oui et non, on essaye. C'est compliqué de réunir des personnes sur une manifestation aussi longue.
10 jours.
Oui.
Du 1er au 9 février.
Du 1er au 9 février. Écoutez, cette année, il y a quand même des gens particulièrement intéressants. Dans le jury labo, Richard Dumas, le photographe qu'on connaît, qui est d'ailleurs en exposition à la Galerie Vue en ce moment. Philippe Pleguet, qui fait l'actualité, puisque son dernier long-métrage est sorti il y a 15 jours, si je ne m'abuse. On a Sylvie Granotier. On a Emmanuel Pierre.
Alors, on s'arrête là pour la liste. Peut-être une surprise qu'il faut absolument pas rater à tous ceux qui sont à Clermont ou sa région. Un rendez-vous que vous auriez envie de souligner.
Un rendez-vous?
Allez, un
seul. Ah non, pas un.
Reçu.
Non. Il y a 500 séances, il y a 500 films.
Bon.
Il faut en faire au moins la moitié.
Voyons. Ben voilà, c'est ça. Au moins la moitié. Bon, et puis alors, est-ce que, quand je disais que la ville était identifiée, Clermont-Ferrand, à son festival, le rapport qu'entretiennent depuis ces 35 ans les habitants de Clermont?
Ben, je crois qu'ils attendent le festival. Une des particularités, c'est que toutes les salles, on utilise une quinzaine de salles, de sites, sont tous en centre-ville. Ils sont reliés par un tram. C'est très facile de passer d'une salle à l'autre. Je dirais qu'elles sont distantes au maximum d'un kilomètre et demi, ce qui, pour vous, les Parisiens, doit vous faire sourire.
Oh, vous savez, un kilomètre et demi à pied, c'est dur.
Et c'est probablement une des raisons aussi du succès de Clermont-Ferrand. On s'attend à recevoir 150 000 spectateurs dans ces salles.
Bon, c'est tout ce que je vous souhaite, Éric Vogic. Le Festival du court-métrage, je le rappelle, de Clermont-Ferrand, évidemment, c'est à partir de vendredi et jusqu'au 9 février. Tout le programme est relayé sur notre site internet franceinter.fr. Ça permet d'aller plus vite. Très cher Éric, c'est à la page d'Ouvert la nuit. C'est un site qui vous permet aussi de télécharger, de réécouter cette émission et même de nous écrire. Éric Vogic, bonsoir.
Merci. On est ouvert le jour aussi. On est ouvert le jour.
J'imagine, je vous le souhaite. Au revoir. Derrière la console de diffusion, ce soir, c'était Anne-Laure Cochet et Aveline Carmois. Et l'équipe d'Ouvert la nuit vous souhaite une bonne nuit. La réalisation, c'était Caroline de Bossé ce soir.